sol à Gazaville. Elle a fait au moins 30 morts, dit la défense civile palestinienne. Une opération qui crée une situation extrêmement dangereuse pour les otages, a dit hier.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Les livres de l'écrivain Philippe Claudel nous accompagnent depuis un quart de siècle à travers ses romans les plus célèbres, tels Les âmes grises ou Le rapport de Brodeck, La petite fille de Monsieur Lynn, mais aussi ses nouvelles, ses pièces de théâtre, ses contes. Parmi son œuvre multiforme, nous avons choisi de vous lire des extraits d'un recueil intitulé Parfum, publié chez Stock en 2012. Il y dresse un inventaire de ces odeurs qui ont enchanté ou agressé ses narines, qui ont laissé une trace parfois enfouie dans les confins de la mémoire. Ces parfums tellement évocateurs font remonter le temps, évoquent parfois un monde disparu, si proche pour certains d'entre nous, et pourtant inconnu des plus jeunes. Fermez les yeux, ouvrez les narines et laissez-vous porter.
Alambic. C'est une cabane de Mabuse, en planches peu équarries, mal jointoyées, noircies par endroits et comme léchées au fil du temps par des flammes opiniâtres. Elle se tient au-dessus du Sanon, près du pont Pierre-Escuras, en encorbellement, retenue à la berge haute par je ne sais quel amarrage miraculeux. Au-dessous, l'eau d'hiver maigre, grise et trouble, les algues longues en chevelure sale, et pas très loin, le port du Grand Canal, où les péniches vont s'aligner côte à côte, comme de gros poissons au ventre repu de calcaire et de charbon. Au mois de janvier, la cabane sort de son sommeil. On perçoit des chuintements, des bruits indéfinissables, des échappées de vapeur et de fumée, des goutte à goutte et de fluides gargouillis. Mais parfois aussi une toux ou une chanson. Un air sifflé, une injure ou deux. Gamins, nous traînons dans les parages, narines et gorges ouvertes, respirant tout ce qui sort de ces murs à s'en faire éclater la poitrine, indifférent au froid qui engourdit les doigts et rougit les joues. L'alambic invisible, et son maître, qui l'est tout autant, nous attire, phalène titubante, près d'un soleil d'alcool. Car là, au profond d'un mystère que nous ne comprenons pas, c'est bien le soleil qui, dans les méandres du labyrinthe de cuivre chauffé, se change en eau de vie. Soleil des fruits d'or et de parme, mirabelle, poire, quetsch, prunelle sauvage, récoltés quelques mois plus tôt si mûrs au pied des arbres que leur poids sucré les a fait chuter et se fendre souvent, excédés de leur surabondance et de leur pulpe chaude, puis mêlés dans des tonneaux où, loin de pourrir, ils se sont mariés les uns aux autres dans un mou entêtant et bulleux. Dans la cabane au-dessus de la rivière se joue le dernier acte. La chair devient pur alcool. La machine livre le liquide aux bouteilles et bonbonnes apportées par nos pères, mais donne aussi sa part aux anges, que la cabane bancale, magnanime, laisse s'envoler. Sans doute au ciel s'enivre-t-on de ces vapeurs, mais sur terre, nous, qui ne sommes plus des anges et pas encore des démons, devenons grâce à elle des faunes hébétées, zigzagant à vélo, riant pour rien, heureux, ivres de cette brise d'alcool et ivres de la vie.
Après rasage. Je regarde mon père dans une abrupte contre-plongée. Nous sommes au sous-sol de la maison, dans la salle d'eau. Il se tient au-dessus du lavabo, devant une petite armoire de toilette accrochée au mur et dont les trois portes sont des miroirs. Le triptyque permet, en les orientant, de contempler trois visages au lieu d'un, parfois plus encore. Le rasoir électrique glisse sur la peau qu'il distend entre ses doigts pour la planir. Il passe plusieurs fois aux mêmes endroits, laissant pour finir un derme lisse et marbré de rougeur. Il rajeunit peu à peu sous mon regard qui ne le quitte pas. Perd la barbe de la nuit, blanche ou grise, cendre qui s'était déposée sur son visage pendant le sommeil pour le vieillir et me le ravir. La musique du rasoir est une psalme maudite. Une prière faite de deux ou trois notes seulement et d'une basse continue comme le chant monotone de certains muezzins. Dans la salle d'eau, il fait toujours humide. Senteur de hammam refroidi, de vestiaire de piscine. La pièce n'a pas de fenêtre. Pour aérer, il faut ouvrir deux portes en enfilade, celle de la buanderie et celle de la cuisine d'été. Mon père débranche le rasoir, entortille son cordon, le range dans l'armoire de toilette, partie gauche, et prend un flacon large et plat rempli d'une eau verte, ménène pour nous les hommes. Je suis loin d'être un homme. Dans le creux dispendieux de sa main gauche, il fait jaillir des gerbes de liquide en agitant le flacon. Comme dans la publicité, très vite, il tapote de sa paume ainsi trempée, ses joues, son menton, son cou, à plusieurs reprises. Nous sommes soudain agressés par d'arrogantes senteurs de menthol et d'agrumes, rendu encore plus féroce par la présence d'alcool qui tourbillonne dans l'air et pique nos narines. Mais cela s'estompe. N'en demeure qu'une odeur qui fait penser à la mélisse et au citron, à la menthe du jardin, que j'aime parfois mâcher, feuilles émeraudes et tisane claire, écorce jaune, poivre aussi. Mon père, qui m'appelle Nonome ou Julo, se penche vers moi, m'offre ses joues en feu, que j'embrasse. Rituel, elles sont devenues étrangement souples et tendres, d'une douceur qui n'a rien de masculin. Par le miracle du rasage et de l'eau verte, d'homme mûr, mon père est redevenu nourrisson.
Cave. Mes grand-tantes Thirion, sœur de ma grand-mère paternelle, demeurent à Saint-Blaise, bref village vosgien tout en rue. Nous les appelons les tantes de Saint-Blaise, les confondant ainsi en une triade antique et passant sur leurs prénoms qui pourraient les distinguer. Berthe, Catherine, Marguerite. Pourquoi aujourd'hui ai-je encore présent dans ma mémoire d'une façon maladivement précise leurs traits, leurs rides, leurs cheveux et coiffures, leurs vêtements gris, noirs et bleus de Gênes? J'aime tendrement ma grand-mère maternelle, et j'ai pourtant perdu son visage. Je n'aime guère ces vieilles femmes qui ne sourient pas, et néanmoins, elles s'installent dans mes souvenirs, tout à leur aise, comme si elles y étaient chez elles. Jamais mariées, elles vivent dans la grande maison familiale, dont le pan arrière du toit touche le potager, où des choux montent la garde jusqu'après les premières gelées. Plus loin, c'est la forêt. Son trouble velours de sapins noirs, de mousse et de branches basses. Elles nous reçoivent dans leur cuisine, avaricieusement éclairée par une courte fenêtre et une lampe à suspension qu'on allume seulement quand on ne parvient plus à distinguer les visages. Je suis l'enjeu de querelles qui me dépassent et dont les raisons s'enfoncent en des rancœurs terreuses. Une tarte aux mirabelles, entamée, molle et sans saveur, nous est chaque fois proposée, comme s'il s'agissait d'un présent somptuaire. Et aux grandes dames de ma mère, fine pâtissière, je la dévore, ce qui amène immanquablement une des tantes à faire remarquer. Eh bien, il avait faim, ce pauvre petit. Manière de reprocher à ma mère de ne pas assez me nourrir et donc d'être une mauvaise mère. On me laisse partir ensuite dans la maison. Je monte dans des chambres où pour la dernière fois des êtres ont dormi en 1915. J'ouvre des armoires, découvre des chapeaux melons naphtalinés, des costumes de mort, de fines badines en bambou, des bouquets séchés, des photographies peintes. Ce musée des vies défuntes me paraît un livre sans alphabet. Je sens obscurément qu'il me faudra un jour le composer et l'écrire. On permet à l'enfant que je suis de respirer ces odeurs de pollen mort, de laine veuve et de linges orphelins, pour qu'un jour il les relie dans une trame et ressuscite des vies perdues au fil des guerres, des maladies et des accidents. Les chambres, les greniers, les lieux de hauteur deviennent des traînes murmurant, tandis que la cave, bas-ventre tout en longueur de cette maison immense, est un poème des enfers. J'y pénètre en tremblant, mais n'en atteins jamais le fond. Y en a-t-il un, d'ailleurs ? Le noir, après quelques mètres, devient total. Les casiers qui supportent des bouteilles de vin au col gris et des conserves de légumes disparaissent de même que la voûte de pierre. Le froid se fait matière et mes pas, quittant le sol de roche, se posent sur une terre qu'on dirait remuée par la pelle d'un fossoyeur. La caverne me lance son haleine de puits, lourde, collante, empêtrée de glaise et de boue. Je frissonne. Je cesse d'avancer. Je tente de rester le plus longtemps possible dans le gouffre. Mon cœur, petit animal encagé, se cogne à ses barreaux de chair. La cave tente de me charmer avec son sortilège de moisissures et de salpêtres, de buées sourdes, sirènes des profondeurs, aux baisers de nuit qui m'oppressent et m'enlacent. Mais la peur trop forte finit par l'emporter et je tourne le dos aux infinités d'encre, cours dans les couloirs étroits jusqu'aux bras de ma mère dans lesquels je me précipite, haletant, sous l'œil sec et désapprobateur des trois vieilles tantes dont deux, en maugréant, caressent leur menton poilu.
D'hôtel. Je connais beaucoup de chambres d'hôtel, trop sans doute, et ce qui, dans l'enfance, me met dans un extrême état d'excitation est source désormais d'une angoisse anodine. L'aimerais-je, cette chambre d'hôtel, dont on vient de me donner la clé et dont je ne sais rien encore, ni sa lumière, ni ses couleurs, ni son mobilier, ni ses odeurs? M'y sentirais-je à mon aise? Et surtout, surtout, pourrais-je y écrire? Car les chambres d'hôtel deviennent, depuis des années, mes bureaux et mes laboratoires. C'est là que j'y accouche de mes petites histoires, dans les trains et les avions aussi. Mobile ou immobile donc, mais enfermé et toujours loin de chez moi. J'ai 5 ans, 7 ans, 10 ans. La chambre d'hôtel signifie les vacances. Elle se charge de leur ampleur et de leur dépaysement. Rien n'y sent comme à la maison, Et ce dont je me souviens avec netteté, c'est le parfum du savon et des serviettes de toilette qui, dès le seuil franchi, m'accueille dans ses chambres de la vallée de l'Ötztal au Tyrol, à la sobre décoration, et dont les bois vernis et les couettes de duvet annoncent le doux confort dans lequel je vais passer quelques jours. Cette chambre n'est pas la mienne, elle ne me connaît pas, ne gardera rien de moi. J'y entre comme dans un lieu neuf, sans mémoire d'autrui, un espace d'impersonnalité totale qui pourrait me rendre mal à l'aise, mais qui, au contraire, me conforte dans ma qualité de voyageur, d'être en simple transit. Nous devrions voir davantage dans les chambres d'hôtel les métaphores de nos vies. Moquettes récentes, literies lavées et repassées par des sociétaires de nettoyage industriel qui utilisent tous les mêmes produits efficaces et inodores. Et cette absence d'odeur, au final, en devient une. Salle de bain désinfectée, penderie sans parfum, fleurs parfois dans les vases, mais fleurs volontairement sans arôme, discrètes, orchidées le plus souvent. Seuls les produits de bain proposent des parfums. Gel de douche, crème hydratante, savon, j'en reviens à lui et à cette impression d'enfance. La chambre d'hôtel, c'est le lieu où on n'utilise pas le même savon qu'à la maison. Parfois, je n'y écris rien. Le lieu s'y refuse, et je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Parfois, j'y écris des heures en oubliant ma vie et le cours du temps. L'espace ne m'appartient que temporairement. J'y laisse mon odeur, comme l'animal sur une coulée ou sur une broussaille où il passera la nuit. Mais le lendemain, peu après que je serai partie, tout de moi sera effacé. Nul ne pourra, en entrant dans la chambre, savoir que je l'ai occupée. Nous y sommes très vite oubliés. Métaphore encore. Parfois, en me penchant sous le lit, pour y chercher des lunettes ou un stylo que je viens de faire tomber, je trouve une chaussette, un bouton, un emballage de chewing-gum. Oui, alors seulement, par ces indices, je me rends compte que la chambre a connu au moins un autre occupant dont l'existence m'est attestée par ces menues choses. Mais je ne suis ni policier, ni archéologue, et je laisse ces vestiges sans les faire parler. Dans certaines chambres, on a fumé. Persistent des miasmes de tabac froid, incrustés dans les tapis, les voilages, au creux des sommiers et des matelas dans les armoires. Savon et tabac, curieux mélange. Mais les tabacs morts finissent tous par puer pareillement. Ils ne témoignent pas de celle ou de celui qui les a fumés, homme ou femme d'ailleurs. Qui donc a dormi ici la veille? La chambre d'hôtel n'a pas de sexe, ou bien elle est hermaphrodite. En fait, elle est indifférente, elle s'en fout. Elle se donne à qui la paie. C'est une putain qui ferme les yeux et n'embrasse pas. Elle nous épouse pour quelques heures, pour une nuit, nous fait croire que nous sommes les seuls, se revêt de nos effluves pour mieux nous mentir, et puis les chasse, comme elle nous chasse. Son parfum véritable, c'est celui de notre brièveté et de notre inconsistance.
Charbon. Nous nous chauffons au bois et au charbon. Plus au charbon qu'au bois d'ailleurs. Et avant chaque hiver, le camion de chez Aubert vient nous livrer. Des dizaines de sacs en toile de jute crasseuse, portés par deux hommes au visage de ténèbres, où seul le blanc des dents et des yeux jette un peu d'humanité. Mais une humanité inquiétante, de tueurs ou de dévoreurs d'enfants. L'un au nom de dieu nordique, Odin. Leurs mains à tordre des coups empoignent les sacs sur le plateau du camion et d'un mouvement de rein, ils les basculent à demi sur leur épaule pour les descendre à la cave d'un pas régulier et lent. La tâche achevée, ils essuient la sueur de leur front d'un revers de main sale. Mon père leur propose un verre de rouge qu'ils sifflent cul sec, debout, sans mots. Briquette ou boulet, ou bien encore en vrac. Le tas de charbon voisine avec le tas de pommes de terre. Les deux diminuent conjointement au fil des semaines. On peut ainsi mesurer l'épuisement de la saison froide. Dans la ville, de toutes les cheminées sort une fumée sombre, lourde, et qui peine à monter dans le ciel ou à s'y diluer. Souvent, il arrive même que celui-ci ne veuille pas d'elle et la rabatte vers le sol, c'est-à-dire vers nous autres. On étouffe alors dans cette brume asphyxiante dont les particules de suie se déposent partout, sur les jardins, le linge qui sèche, dans nos cheveux, sur la neige qui trouve là son contraire. On m'envoie pelleter. Je remplis le curieux seau en zinc de sections carrées à sa base et qui se rétrécit vers le haut tout en s'arrondissant. Je le remonte en le tenant à deux mains. Le fourneau attend, comme une bête affamée, qu'on veuille bien lui donner sa ration. Je soulève la trappe avec un crochet, fais rouler la matière noire dans la gueule rougeoyante. La chaleur atroce cuit la peau et parfois roussit un peu mes sourcils. Cochon grillé. Le poil de Marc Sougland digère sa ration. Il se met à ronronner d'aise. Repu. J'ouvre mon cartable et commence à faire mes devoirs sur la table de la cuisine, dans le parfum de la soupe du soir. Je suis bien. J'aime écrire et lire dans les cuisines. C'est pour moi le lieu essentiel, simple et sans façon, loin de toute raideur protocolaire. On n'a pas à paraître, ni à jouer là un quelconque jeu social. La cuisine connaît notre vérité profonde. Elle nous voit le matin avec notre visage mâchouillé par la nuit, et le soir, quand, après une trop longue journée, nous baissons la garde, desserrons la ceinture et montrons nos faiblesses. Les livreurs de charbon disparaissent à mesure que s'installe le chauffage central. Révolution. On a chaud proprement. Les caves ne sont plus noires de suie. Les ménagères n'ont pas à traquer la poussière. Des cheminées ne sortent que des bouffées transparentes qui ne sentent plus rien. On oublie l'odeur. On ferme les mines. On rebouche les carreaux. Le charbon disparaît de nos vies. Bien des années plus tard, je marche dans les rues d'une ville de Pologne, Katowice. C'est le mois de février. Il fait très froid. La nuit est tombée déjà. Je croise des silhouettes rembourrées sur les trottoirs qui marchent vite, tête baissée, et disparaissant sous de gros bonnets, des casquettes à rabat. Magasins pauvrement éclairés, cafés peu engageants, quelques ivrognes qui se querellent avec leur ombre. Et puis d'un coup, par un brusque courant d'air venu d'en haut et qui a raflé sur les toits tout ce qui pouvait y stagner, me voici dans la brume d'une fumée poussiéreuse et âcre, comme un peu verte ou jaune, qui vient irriter ma gorge et mon nez. Charbon. Charbon que l'on brûle encore ici un peu partout, dans ce pays de mines exploitées. Odeur d'enfance et odeur de pauvreté, de tristesse aussi. Comme si les particules noires de combustion illustraient les malheurs, petits ou grands, dommageables ou bénins, pérennes ou passagers, qui se déposent sur les vies humaines et les souillent.
Chou. Céline, il me semble, en parle comme de l'odeur de la pauvreté recuite. En soupe, à chaque repas, sans viande pour l'engraisser, et dont les fumées de corps négligés s'accrochent aux murs goitreux des cages d'escalier, aux communs et aux soupentes, au plafond bas des chambres de bonne, aux loges rances des concierges, finissant par entrer dans chaque lézarde comme le plus inopérant des mastics. Une sorte de carte d'identité de la misère. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que jamais tu ne seras. Enfant, ma honte à sentir le chou n'a d'égal que le plaisir à en manger. Je m'en ferai crever la panse. Oui, soupe au chou, poté, lapin au chou, chou au lard, petit chou de Bruxelles sauté à la poêle qui garde un cœur presque cru, seul ou avec des pommes de terre, mijoté longuement en cocotte, accrochant un peu au fond en un caramel gras qui concentre tous leurs arômes. Mes cheveux et mes vêtements me trahissent l'après-midi comme nous trahissent les filets de merlan frit le vendredi. Mais ce jour-là, c'est nous tous qui puons et le maître aussi. Pour le chou, je suis souvent solitaire et on se bouche le nez à mon passage avec ostentation. Le chou refroidi est le plus assassin. Il reste de lui toujours quelque chose, des traces de crime, des brumes inertes. C'est un meurtrier maladroit qui ne pense pas à escamoter l'épreuve. C'est aussi l'odeur de certains vieux que plus personne n'aime ni ne visite. L'odeur des condamnés, celle qui hante les maisons de retraite et les maisons d'arrêt. Comme si le chou s'accommodait des grands espaces d'enfermement et savait seul accompagner la peine et les longues peines, les fins de vie, les vies détruites, les vies surveillées, les vies étouffées, gâchées, broyées et les mourants aussi. Le chou fait partie de la sentence. Et même quand il n'est pas là et il ne l'a jamais été, il arrive qu'on le sente malgré tout, malgré lui, dans des chambres qu'on n'aère pas, des chaussettes sales, contre des peaux grises, sous des aisselles, des jupes ou des caleçons, des pansements. Tenace même dans son absence. Si banal en somme que d'autres odeurs parviennent à le singer et à usurper son identité. Au fond, il n'est personne. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été longtemps le repas de ceux qui n'étaient rien et qu'il leur colle toujours à la peau. Un mal-aimé, un réprouvé, un banni, un faible, un qu'on ne regarde pas. J'espère longtemps encore puer le chou.
Coiffeur. Le salon du père Hans se trouve à l'angle de la rue Jeanne d'Arc et du chemin des prisonniers. Pour m'y rendre, il me suffit de prendre la rue Saint-Don et de la suivre jusqu'à ce carrefour. J'y vais seul et donne au coiffeur, sitôt que j'arrive, la pièce de 5 francs imprégnée de la chaleur de ma paume qu'il a serrée fort, de peur de la perdre en route. Je m'assois sur l'une des 4 chaises, attendant mon tour. Le père Hans coiffe en fumant et en dansant. C'est un homme sans âge, revêtu d'une blouse en nylon gris, petit, mince, aux cheveux argentés ramenés en arrière et qu'il repeigne souvent, dont les yeux sont constamment plissés par la fumée de sa gauloise qui ne quitte pas la commissure droite de ses lèvres. Il tourne autour de celui qu'il coiffe en sautillant, avec une grâce de boxeur dont le jeu de jambes serait le point fort. Il parle beaucoup, aux hommes évidemment, il n'y a que ça. Des vieux pour la plupart. Moi, il ne semble pas me voir, jusqu'au moment où c'est mon tour. À toi gamin. Et il me fait asseoir sur le siège pivotant, le remonte à son maximum en actionnant avec le pied, comme s'il gonflait un matelas pneumatique avec une pédale hydraulique. D'un geste emphatique de toréador ou de magicien, il fait voler autour de moi une cape légère sous laquelle, à l'exception de ma tête et de ma nuque, je disparais. Parachevant les préparatifs, il détache d'un gros rouleau posé sur la coiffeuse une bande de papier crépon blanc nervuré de rose et m'entoure le cou de cette collerette élastique, souple et tout à la fois rêche, qui irrite agréablement mon menton. Pendant une demi-heure, je suis livrée à ses ciseaux qu'il aime faire chanter en coupant l'air de-ci de-là, comme si, en même temps que moi, il coupait les mèches transparentes de fantômes ébouriffés. La fumée déroulée et décousue, épaisse et âcre, forme un plafond mobile qui se déplace au gré de ses sautillements. J'aime être livrée à lui, comme j'aime encore aujourd'hui être totalement abandonnée aux mains souvent délicieusement bavardes des coiffeuses, des masseuses, des ostéopathes, des pédicures et des kinésithérapeutes. Je découvre mon crâne de piaf à mesure que mes cheveux d'un brun blond tombent autour de moi. Le meilleur moment est encore à venir. La coupe terminée, le père Hans déchire le crépon qui m'a déguisé en courtisan de Charles IX, le froisse entre ses mains, le lance dans la poubelle et prend un flacon de métal ventru terminé par un bec mince et long, à l'autre extrémité duquel pend une grosse poire de caoutchouc rouge légèrement crevassée. Alors, toujours vif, il sautille autour de moi tout en pressant la poire et expulse du vaporisateur un nuage mouillé d'eau froide qui sent la rose et la brillantine, et aussi, un peu, en note de fond, le vieux chien. Cette pluie microscopique dépose en infimes gouttelettes sur mes cheveux ras, mes paupières, mon front, ma bouche close, mon cou, sa rafraîchissante ondée. Baptême laïque et mensuel. « Tu sens bon, tu es beau », me dit ma mère quand je rentre. Je la crois. Il est un âge où on croit toujours ce que nos mères nous disent.
Goudron. Aux heures élastiques de l'été, sur les routes étroites, bordées de blé mûr, le soleil écharpe à la crête de l'asphalte, entre les graviers gris, des filets noirs pétrole, luisants et gras qui collent aux roues des voitures et des bicyclettes, ainsi qu'aux semelles du vagabond. Cela sent la pierre concassée, la poudre d'explosion, la poix camphrée et l'iode saugrenue en ces terres éloignées de toute mer, à l'exception de celles qui, voilà des millions d'années, remplissaient tout ici, creuses et vallons, et n'a laissé derrière elles que des coquillages devenus roches, lourds et cassants, que les socs des charrues rapportent à la surface de leur immatériel chalut. Après-midi sans fin, entre Haraucourt, Buissoncourt, Réméréville, et Courbesseau, libre de mes promenades, heureux, où colons disciplinés, en file indienne, sur les routes de Martincourt, Gézoncourt, Mamet, Rogéville, Arnoux, Corcieux, reprenant les chants mécaniques et stupides qui parlent de nouilles, de jambes de bois et de la meilleure façon de marcher. Les goudrons suent de chaleur, tandis que les grillons et criquets accordent leurs ailes. Entre des nuages au ventre blanc et rond, les alouettes leur répondent. On se prend à rêver au gargouillis d'une source. On guette les boqueteaux au loin, qui ressemblent à de grands moutons bleus couchés sur le flanc du côté de Saint-Jean. On respire à plein nez. Une guêpe, rabattue par un bref coup d'air, s'enlise parfois dans les mares bulleuses de la chaussée en fusion. Elle agonise, seule, sans effort, pour s'extraire du piège qu'elle sait fatal. Au clocher des villages, dilatés dans les brumes de chaleur, 3 heures sonnent et les échos de bronze se perdent, engourdis dans le ciel plein d'une pure indifférence. Le goudron existe aussi en tonneaux de fer. Il est liquide, il attend que des ouvriers algériens ou portugais y puisent de larges seaux pour réparer les ornières de la route. Tout cela est entreposé près de notre école primaire. On guette le contenu, couleur et odeur de réglisse. Chiche ou pas chiche, dit jeter une grosse pierre. On me provoque. Je relève le défi. Faiblesse des imbéciles. Le goudron jaillit. En belles éclaboussures, le tonneau a perdu une part de sa matière. Le sol est maculé. Grande délinquance, je m'enfuis. Je suis certain qu'on va m'arrêter. J'arrivais à la maison, penaud. Ma mère sent bien qu'il se passe quelque chose. On sonne. J'aperçois deux képis. La police, je file dans ma chambre, me cache sous les couvertures. J'imagine mon procès et ma cellule. C'est effroyable, la peur. On n'est plus rien soudain, on se maudit. Mais j'entends des rires. Les policiers ne sont que les collègues de mon père qui sont passés dire bonjour. Le petit Burtin, qui un jour verbalisera sa propre voiture après avoir trop forcé sur les apéritifs, et le grand Toussot, avec son nez façon de Gaulle. Je redescends à pas de loup. J'ai encore un peu peur, on ne sait jamais. C'est peut-être une ruse pour mieux arrêter celui qui a vandalisé un tonneau de goudron, mais non. Le fourgon s'en va. Il est temps de manger. Ma mère a mis la table. Je me savonne les mains et découvre une tache noire sur mon avant-bras gauche, grasse et collante, qui ne veut pas partir, qui s'étale même, comme pour proclamer que je suis coupable. Coupable.
Savon. Bloc parfait. Grosse dent d'animal égaré d'une mâchoire disparue et qui laisse, sous les ongles qui le griffent, un peu de son émail et de sa pulpe. Insaisissable, glissant, fuyant dans l'eau du lavoir communal qu'il a déjà teinté d'un lait clair. Les femmes parlent. Elles sont vieilles, aux cheveux jaunes et gris ramenés en chignon. Vieilles comme toutes les femmes lorsqu'on est un enfant. Mais plus vieilles encore celles-là qui sont nées au début du siècle, le 20e. Ont roulé leur vie dans la prégnance sanglante des guerres. Le lieu sent la maison de bain. Le propre des bulles transparentes qui parfois naissent sous les coups de battoir et que je crève aussitôt. Car je suis dans l'eau, petit poisson humain, sous le regard des laveuses qui m'éclaboussent. Les draps se tordent entre leurs mains. Elles essuient la sueur sur leur front, rient, jacassent, cancanent, sans pour autant ralentir leur ouvrage. Je ne sais pas nager. Mes pieds se posent sur le fond du lavoir, brut. Je ne les vois pas, je ne vois pas mon corps. Il est mangé par le savon que l'eau dilue. Et son odeur, simple, élémentaire, un peu froide, presque clinique, emplit mon corps, comme pour le laver aussi. Ma grand-mère me sort de l'eau. Elle me soulève sans effort, je ne pèse rien. Je ne suis encore qu'un petit d'être humain qu'elle sèche avec un pan dénoué de son sarrau bleu. Je grelotte. Ma peau se dresse et tremble. Je me respire. Je suis devenu le savon. Grand-mère me rhabille. Je file au dehors sous le soleil. Je plisse les yeux. Je laisse la chaleur du jour me revêtir. Le pont des voleurs est là, si étroit que deux hommes à pied ne peuvent s'y croiser. L'eau du lavoir rejoint par un tuyau de fonte celle du Sanon à cet endroit. Longue traînée blanchâtre comme une voie lactée qui faussoie sans remords ses galaxies dans les remous. Objet liquide de curiosité sans fin pour de minces alevins étonnés qui s'y précipitent, s'y ébattent en des mouvements nerveux, incontrôlés et joyeux et qui finissent par y mourir, brindilles d'écailles inertes emportées par le courant.
Les textes que vous venez d'entendre ont été lus par Monique et Marie-Paul. Ils ne représentent qu'une toute petite sélection du recueil de Philippe Claudel intitulé « Parfum ». Aussi, nous vous invitons vivement à poursuivre la lecture pour inhaler d'autres parfums et confronter votre mémoire olfactive à celle de Philippe Claudel. En accompagnement musical, vous avez entendu Jordi Savall interpréter à la viole des œuvres de Marin Marais. Nous remercions Claude Michel qui a assuré le montage. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre. Rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G. www.radio-g.fr.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour ?
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la 6e déjà ?
Et oui, et les inscriptions sont ouvertes. Alors chanteurs et chanteuses, c'est moment de tenter votre chance pour participer à Radiovision.
Pour que votre titre original passe en radio, rendez-vous sur radiovision.fr. Vous avez jusqu'au 18 avril. C'est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Infos et inscriptions sur radiovision.fr.
Ça ne se rattrape guère, ça ne se remplace pas, mais quand...